Midi 1, Karima, Matin Famille.
Et nous sommes en direct avec le docteur Atman Lorabi, psychiatre, psychothérapeute et secrétaire général de l'association marocaine de psychiatrie psychodynamique pour parler, comme prévu, de l'impact du sommeil sur notre santé mentale. Docteur Atman Lorabi, bonjour, un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans Matin Famille.
Oh, bonjour Karima, et tout le plaisir est pour moi.
Alors docteur, on commence peut-être, je pense, dans le vif du sujet. En quelque sorte, on sait surtout en cette période de Ramadan, voilà, on manque tous de sommeil à des niveaux un petit peu différents. Quel impact justement a ce manque de sommeil sur notre santé mentale ?
Alors, comme vous le dites, on manque de sommeil, c'est-à-dire que ça constitue ce qu'on appelle une insomnie. Hein. Mmh. On avait déjà fait un épisode sur les parasomnies, c'est-à-dire les phénomènes qui accompagnent le sommeil. Quand on parle d'insomnie, c'est vraiment une réduction du temps de sommeil. C'est ça la définition médicale. Et alors, avant de répondre à votre question en termes d'impact, il est important de comprendre que le sommeil, valeur aujourd'hui, scientifiquement parlant, nous ne savons pas pourquoi nous dormons. Ça paraît étonnant, mais nous ne savons pas au juste pourquoi nous dormons, nous ne savons pas au juste pourquoi est-ce qu'il y a de rares cas de personnes qui peuvent ne pas dormir toute leur vie, hein. Ce sont des cas exceptionnels, tout comme on sait que pour l'immense majorité des gens, une privation de sommeil de plusieurs jours peut aboutir au décès, hein, par des phénomènes qu'on ne comprend toujours pas réellement. Une fois que c'est dit, à partir de ce moment-là, les insomnies ou les réductions du temps de sommeil, leur impact au niveau de la santé mentale, il est toujours négatif. Toujours. Ça n'existe pas une insomnie persistante dans le temps qui ne va pas impacter notre santé mentale. Et quand je parle d'impact, alors les premiers jours, très rapidement, on va avoir des symptômes à type d'irritabilité, en cas de manque de sommeil. Donc on est nerveux, on est agressif dans nos propos, dans nos réactions, etc. Ouais. Et ça peut s'accompagner par un cortège de symptômes physiques, donc qui correspondent un petit peu à une élévation du niveau d'anxiété, qui peuvent être les maux de tête, les vertiges, les palpitations, et ça peut aller réellement jusqu'à la crise d'angoisse ou l'attaque de panique, du simple fait de la privation de sommeil. Ça, vraiment, il faut le savoir. Une fois que ça persiste dans le temps, ça peut déclencher tout un tas de troubles, et surtout pour les personnes qui ont déjà des antécédents de troubles psychiatriques, ça va très très probablement causer une rechute. Que ce soit en termes de dépression, que ce soit en termes de troubles bipolaires, que ce soit même en cas de maladie plus sérieuse comme la schizophrénie, en cas de privation du sommeil, on peut avoir une rechute symptomatique avec la réactivation d'hallucinations, etc. Donc, tout ça pour dire que le manque de sommeil, en réalité, en soi, c'est un facteur stress.
Ouais.
C'est-à-dire que même si on n'a pas de problème et qu'on veille on réduit notre sommeil sur plusieurs jours d'affilée, même dans un contexte, je dirais, positif, hein, de mariage, de choses, etc., cela constitue un facteur de stress qui peut perturber notre équilibre psychique et mental.
Et justement, docteur Atman Lorabi, il y a en quelque sorte des insomnies, on va dire, passagères, comme par exemple pendant le mois de Ramadan, vu que notre rythme est un petit peu décalé, et il y a des insomnies qui persistent dans le temps. Et quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, justement ?
Alors, les insomnies passagères, en réalité, ce sont des troubles du sommeil qu'on va observer pendant moins de 15 jours, grosso modo. Hein. Tout ça pour dire que, justement, le Ramadan, étant donné que c'est le mois sacré et que ça dure un mois par définition, on ne va pas dire que c'est passager, hein, c'est circonstanciel, mais on va dire que ça devient chronique, spécialement les dernières semaines de Ramadan. On le ressent probablement tous, c'est-à-dire avec de la fatigue, avec quelquefois l'apparition de symptômes anxieux, de petits troubles par-ci et par-là, et ce qui donne toute l'importance en fait de la la prévention hein, pour le mois de Ramadan, parce que le sommeil, en fait, il faut briser quelques idées reçues rapidement, si vous me permettez. Beaucoup de gens disent, voilà, je vais aller faire mon sport pour me fatiguer, pour mieux dormir. Alors, c'est totalement faux. Quand on parle de se fatiguer pour dormir, ça n'existe pas. En fait, le sommeil répond à une horloge biologique. Ça, c'est très important de le savoir. C'est-à-dire que il y a des pics dans notre sang de mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui est fabriquée par l'épiphyse, bon, une glande cérébrale. Et ce sont des pics qui se reproduisent toutes les 24 heures à peu près, indépendamment de ce qui se passe pendant la journée. Ça, c'est très important. Et que pour décaler un petit peu ce pic de mélatonine, ça ne peut se concevoir que sur plusieurs jours d'affilée où ça, on va avoir un pic qui va très très progressivement se décaler, adopter une nouvelle phase. Donc, une fois que c'est dit, on comprend que bah, le sommeil, par définition, c'est une fonction instinctive, c'est-à-dire que on ne contrôle pas le fait d'avoir envie de dormir. Le sommeil nous vient et puis on s'endort. Et il faut qu'on se réveille à une certaine heure. Et ça, c'est important de le garder en tête, parce que Ramadan, si vous voulez, pendant le mois de Ramadan, on a des changements majeurs qui vont opérer deux choses très importantes, à savoir le rythme des repas, par définition, parce qu'on jeûne, mais aussi le rythme du travail. Or, le rythme du travail et le rythme des repas, ce sont deux éléments qui permettent de maintenir l'organisation du sommeil, ce qu'on appelle le cycle nyctéméral. À cela s'ajoutent les erreurs hygiéno-diététiques qu'on va tous faire pendant le mois de Ramadan, à savoir la consommation de repas trop copieux le soir, éventuellement, à savoir la consommation de psychostimulants, le thé, le café, la nicotine, donc en soirée, ce qui va perturber le moment de l'endormissement. C'est-à-dire que même quand il y aura le pic de mélatonine, eh ben, on ne va pas s'endormir. Et là, justement, on aura ce qu'on appelle une insomnie d'endormissement, c'est-à-dire, c'est-à-dire en début de nuit, qui correspond le plus souvent à des formes bénignes hein, d'insomnie. C'est ce qu'on va le plus souvent aussi observer en cas de facteurs stress importants au travail, indépendamment du jeûne du mois de Ramadan. Quand on a une mauvaise nouvelle, une rupture, un décès, des choses comme ça, c'est assez classique hein, d'observer cette insomnie d'endormissement pendant quelques jours.
Et sur le long terme, docteur Atman Lorabi, qu'est-ce qu'on devrait faire justement si on souffre d'insomnie persistante?
Merci pour cette question. Et justement, c'est là où va intervenir la bonne hygiène de vie. En cas d'insomnie persistante, la première des choses, c'est de bannir les stimulants, le café, le thé principalement. C'est très important. Les bannir totalement, hein, toute la journée, pas juste au-delà d'une certaine heure. La deuxième des choses, et beaucoup de gens ont du mal à entendre ce que je vais dire, il faut se réveiller à la même heure, 7 jours sur 7. L'horloge biologique, elle a une cyclicité de 24 heures. Elle ne connaît pas le week-end. C'est-à-dire que, par définition, le fait de faire une grasse matinée le week-end, c'est une erreur. C'est une erreur fondamentale pour essayer de préserver le bon cycle du sommeil. Ça, c'est très important. Donc, rien que le fait, et très très souvent, le fait d'adopter déjà cela, à savoir se réveiller à la même heure tous les jours, alors on accorde une latitude de une heure supplémentaire les jours non travaillés, c'est pas dramatique, mais il faut pas que ça dépasse une heure. Si on a l'habitude de se réveiller à 7 heures, faut pas se réveiller au-delà de 8 heures. C'est ce qui va permettre de maintenir le sommeil dans sa cyclicité. Après, il y a des choses qui sont plus d'ordre psychologique, qui permettent de maintenir cette insomnie d'endormissement, notamment les personnes qui sont très anxieuses à l'idée de ne pas dormir. Très souvent, ces personnes vont aller au lit avant le fait d'avoir sommeil, c'est-à-dire avant le fameux pic de mélatonine. Elles vont s'efforcer de trouver le sommeil, alors que, je viens de le dire, on ne peut pas trouver le sommeil, c'est le sommeil qui nous vient. Et puis, même en cas d'insomnie, elles vont rester dans le lit, à ne pas bouger, à essayer de s'endormir. Donc, le principe de base, c'est quoi? D'abord, aménager de bonnes circonstances pour trouver l'endormissement, il y a ce que j'appelle le couvre-feu numérique, c'est-à-dire on va bannir tous les écrans, la télé, les téléphones, les ordinateurs à partir d'une certaine heure. Moi, je recommande en général 22 heures ou plus tard, c'est ça. Et puis, il faut avoir des activités qui sont plutôt apaisantes avant d'aller au lit, à savoir la lecture, écouter de la radio, de la musique, ce genre de choses, sans support numérique. Toujours, hein, je le précise. Et c'est uniquement quand on a sommeil, par exemple, qu'on va aller au lit. On va au lit, mais une fois qu'on est au lit et qu'il se passe 30 minutes et qu'on ne s'est toujours pas endormi, il faut impérativement quitter le lit. Mmh. Hein, ça, c'est très important, parce que sinon, à ce moment-là, permettez-moi l'image, le lit devient un lieu de torture.
Ouais.
Quand on ne trouve pas le sommeil, on peut ruminer, il y a des ruminations, il y a des idées parasites qui nous viennent. On peut aussi commencer à stressé, entre guillemets, du fait de ne pas dormir, etc. Donc, il faut rompre ce cercle vicieux, il faut quitter le lit, aller reprendre un petit peu ses aises, son bouquin, sa radio, etc. Et puis, à nouveau, attendre que le train passe. Mmh. Parce que le sommeil, c'est ça, c'est des phases. C'est-à-dire que si on a raté l'endormissement à une certaine heure, bah, faut attendre le prochain train qui peut se produire une heure jusqu'à deux heures plus tard. Donc, c'est important d'adopter cette attitude pour dédramatiser le fait de ne pas dormir. Mmh. Et surtout, je le disais, même si on a une petite nuit, entre guillemets, de sommeil, eh ben, il faut se réveiller à l'heure, comme d'habitude, de telle sorte que ben, le lendemain et le surlendemain, ben, on pourra probablement mieux s'endormir la nuit. C'est grosso modo les conseils comportementaux hein, que je donne aux gens pour justement essayer de maintenir une bonne qualité de sommeil et surtout enfin, de bonnes heures de sommeil.
Et docteur, si ça ne marche pas à ce stade, est-ce qu'on devrait justement demander de l'aide à ce stade?
Alors,
si on voit que ça dure trop.
Absolument. À partir du moment où ça dure trop, il y a probablement un autre processus qui est sous-jacent. Parce que les troubles du sommeil en soi, quand ils sont chroniques, ce ne sont pas des maladies à part entière. Oui. Hein, ce sont des symptômes. Ce sont des symptômes d'autres choses. Ça peut être des troubles anxieux, ça peut être un trouble dépressif, ça peut être d'autres éléments. Et à ce moment-là, il convient d'avoir une évaluation médicale correcte pour justement traiter ce qui est sous-jacent. Mmh. Et j'attire l'attention de nos auditrices et auditeurs sur le fait que les somnifères ne sont une solution qu'à très, 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 très court terme. Mmh. J'insiste, c'est-à-dire que ça se compte en jours, pas en semaines, pas en mois, parce que les somnifères, justement, peuvent induire une espèce de contre-coup, parce que très rapidement, il y a de l'accoutumance.
Ouais.
Et en fait, on rentre dans une espèce de cercle vicieux où même en prenant le somnifère, il y a de l'insomnie, il y a des phénomènes anxieux, et même ça a tendance à s'aggraver. Donc c'est très important de ne pas céder à la tentation de l'automédication hein, par des hypnotiques ou des somnifères.
Merci beaucoup, docteur Atmal Lorabi, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Et à mardi prochain, Inch'Allah.
À mardi, Inch'Allah. Au revoir.
Au revoir.